Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce live des As. As pour animateur sécu, live animé par Jean-Marc Galland et Mathias Spierglass. Salut Mathias.
Salut Jean-Marc.
Alors, vous pouvez nous suivre sur YouTube, en live en tout cas, on l'espère, ou bien en replay, vous êtes peut-être dans la réunion Zoom. Dans tous les cas, vous pouvez comme d'hab intervenir, en tout cas poser des questions par écrit, via le chat ou les commentaires de YouTube. On les fera remonter sans faute au cours du live. On est ensemble pour 55 minutes, une heure maximum, même rubrique que d'habitude, l'actu du réseau, l'actu de la sécu, le retour d'expérience du mois à la fin. Alors, oui, Rex, tout à fait inédit, c'est un Rex d'un accident qui ne s'est pas encore produit. On vous en dit plus à la toute fin, mais surtout le plat de résistance et 40 minutes d'interview ce soir consacré au live tracking. Et on a le plaisir d'avoir deux invités qu'on vous présentera dans quelques minutes. Mais avant ça, Mathias, on démarre avec l'actu du réseau des AS. Dis-nous, où en est le réseau des AS?
Eh bien, ce soir, il y a 260 AS au cœur du réseau. C'est 7 de plus qu'en février. Et les AS sont répartis dans 189 structures, ce qui ne cesse de croître. Voilà, on tend tout doucement vers les 300 AS. Donc, voilà, continuez à en parler autour de vous, ça marche bien comme ça. Alors, par contre, parmi eux, il y a toujours seulement 19 femmes et ça représente globalement 18 996 licenciés, soit un peu plus de la moitié des licenciés qui sont représentés par un AS. Bon, c'est très contrasté aussi au niveau des différentes activités de la Fédé, puisque il y a seulement 6 AS en kite et 5 AS en delta dans le réseau.
Mais comment fait-on, Mathias, pour devenir AS? Je brûle de le savoir.
C'est toujours aussi simple, hein, ça n'a pas changé. Pas besoin de voir une AG, pas besoin d'être élu, pour le moment en tout cas. On peut avoir autant d'AS qu'on veut dans une structure fédérale, que ce soit des clubs, des écoles, des CDVL, des ligues, des commissions, des comités nationaux parapente, delta ou même kite. Le seul truc qu'il faut faire, c'est de se mettre bien avec le bureau directeur de la structure et de se faire inscrire sur l'intranet fédéral en tant qu'animateur sécu. Et le tour est joué, et dès que vous êtes inscrit, vous avez accès à un nouvel en-tête sur votre intranet fédéral avec toutes les ressources du réseau des AS, Discord, la base de données de ressources, etc.
Votre vie changera, vous aurez d'un seul coup près de 300 amis supplémentaires. Qu'est-ce qu'on fait de beau dans le réseau, Mathias, en ce moment?
Eh bien, plein de choses. Déjà, au sein du réseau, on a expérimenté une formation pour former des débriefeurs qui a eu lieu sous la direction de Jeff Chapuis en vue de la mise en œuvre finalement d'un service de débriefing suite aux déclarations d'accident que les licenciés pourraient faire et qui auraient envie de parler de ce qui leur est arrivé. Donc, une communication pour expliquer le principe de ce dispositif, eh bien, sera faite vers la mi-avril.
Ok, super. Quoi d'autre?
On structure le réseau. Ça, c'est un point super important. On en a déjà parlé la fois dernière, hein. L'idée, c'est d'aboutir à une structure avec un AS par structure. Et donc, ça permettra d'avoir un maillage qui soit fin sur l'ensemble du territoire de la Fédé et de permettre justement de faire bénéficier des services d'un AS à l'ensemble de la communauté des pratiquants. Ensuite, bien sûr, on a plein de discussions qui ont lieu au sein du Discord, hein, sur le Discord du réseau, où on a discuté par exemple de zones aériennes et de bulles de protection de la nature. Et le débat, c'était de savoir si c'était de la Sécu ou si c'était pas de la Sécu. Ben voilà, je vous laisse cette question-là en suspens. En tout cas, c'est pas tranché, mais en tout cas, c'est super intéressant les discussions qui s'échappent du réseau de cette manière. Il y a aussi eu des discussions assez vives et assez nombreuses sur le recensement des différentes solutions de live tracking et de leur intégration au dispositif FVVL. Et ça tombe super bien parce que c'est un peu le sujet de notre live d'aujourd'hui. Voilà.
Ok,
On va
alors
passer au
rubrique suivante, le coin du
Du
matos.
matos sécu, ouais.
Absolument. Et ben justement, pour rester dans le thème du tracking, on va vous parler de quelque chose qui se colle sur le casque, qui vaut pas très cher, 20, 30 euros, quelque chose comme ça. C'est tout simplement un réflecteur Réco. Donc Réco, on a peut-être l'image des trucs qui marchent pour retrouver les gens sous les avalanches, mais ça ne sert pas qu'à ça. C'est un réflecteur passif qui aide les secours à vous retrouver au cas où. Il n'y a rien à recharger, il n'y a rien à... Voilà, ça se colle sur le casque et ça s'oublie. Vous trouverez évidemment la référence de ça et on en reparlera aussi dans l'interview, dans le scoop-it habituel.
Et d'ailleurs, on est en train de négocier des tarifs auprès de Réco, hein, directement. Et donc, on s'est mis d'accord sur un tarif qui serait à moins de 20 euros pour les licenciés FFVL. Et bien sûr, on vous tiendra au courant de comment on procède dans un avenir proche pour justement se procurer ces réflecteurs Réco.
Ouais, c'est magnifique, vous venez d'économiser 10 euros, sans même le savoir. Bon, Mathias, on en vient à la revue Sécu du Web. Qu'est-ce que tu as trouvé?
Eh ben écoute, j'avais envie de parler ce soir de. Alors, c'est pas forcément des vidéos très récentes, mais c'est un effet qui nous joue des tours en vol libre. Et donc on a tous entendu parler, par exemple, lors de la formation au parapente ou au vol libre, du sommet de la stupidité. Si vous savez pas ce que c'est que vous ne connaissez pas probablement l'effet Dunning-Kruger, qui est un biais cognitif qui permet d'expliquer le rapport entre le niveau de confiance et le niveau de compétence et de pratique du pilote ou de la personne qui pratique l'activité. Alors, on a un schéma classique qu'on va rappeler ici, c'est le sommet de la stupidité, hein, c'est le moment où on est en surconfiance, beaucoup plus trop confiant par rapport aux compétences qu'on a acquises, donc c'est au début de la progression. La vallée de l'humilité, hein, s'ensuit dégringolade en termes de confiance et qui aide pas à faire ces choses-là. Donc là, on a l'impression qu'on est au fond du trou. Puis un plateau, puis en fait une ascension vers ce qu'on appelle la consolidation des savoirs et des apprentissages et des compétences. Et ben, ce qu'on sait peu, en fait, c'est que dans la progression, eh ben, le sommet de la stupidité, eh ben, il arrive à peu près à chaque. Il se répète, en fait, tout au long de la consolidation de l'apprentissage. Et que donc, ce n'est pas juste un effet qu'on a au début de la progression, mais c'est un peu tout le temps un effet qu'on expérimente au cours de notre progression. Donc, finalement, en avoir conscience, ça permet de s'en prémunir, hein, finalement, dans une certaine mesure.
Merci Mathias, tu nous évites. On vient de quitter le sommet de la stupidité grâce à cette info. Deuxième ressource, on va reparler de gens qu'on aime bien, qu'on suit souvent. C'est le débrief de Wingmaster. Raconte, Tom.
Et oui, alors c'est pas le dernier, enfin c'est presque le dernier Wingmaster débrief. Et le sujet était de savoir un peu comment et pourquoi remettre en question sa pratique, ses compétences en vol libre. Et donc l'idée, c'est, je vous rappelle, hein, de répondre aux questions des auditeurs ou des spectateurs. Et donc Jérôme Cano, qu'on salue ici, hein, montre comment interroger sa pratique, ses motivations à voler, et comment on peut à tout niveau questionner ses compétences, les conditions, mais aussi l'environnement de sa pratique.
Ok, Wingmaster. Allez, avant-dernière ressource, t'es allé voir du côté des forces spéciales, raconte.
Et oui, alors bah, je ne sais pas si je le ferai tout le temps, mais en tout cas, les forces spéciales sont soumises à des situations de stress, en situation d'incertitude, évidemment. Et ce n'est pas sans rappeler ce qu'on éprouve finalement quand on vole en vol libre, l'incertitude et le stress qui est lié à l'incertitude. Et on a plein de recettes, ou en tout cas de bonnes pratiques qui permettent justement de limiter ce stress, de maîtriser ce stress pour agir en meilleure connaissance de cause. Ces conseils sont par exemple optimiser sa motivation profonde, on en a déjà parlé dans la ref précédente, répéter des routines ou des gestes, prendre conscience de sa pratique, ou encore faire un travail sur l'ego qu'on sait démesuré chez les pilotes, évidemment. Et donc tout ça, c'est des conseils que vous trouverez dans cet article de la Revue de la Défense nationale, qui est fort intéressant.
Ok, on reste sur le stress avec la dernière ressource. Un habitué de ta revue du web,
Et oui,
l'ami
à chaque fois,
Flying Greg.
j'essaie de trouver d'autres ressources dans d'autres chaînes, mais il est quand même assez prolifique. Et puis, donc Greg Hamerton, alors là, il s'agit d'une vidéo beaucoup plus récréative que l'article précédent, mais qui parle un peu de la même chose, hein, une vidéo qui met en scène un biplace pédagogique. Super sympathique, où Greg Hamerton explique comment on apprivoise sa pratique afin d'accroître sa confiance et surtout de savoir exprimer ses compétences. Et il donne quelques petits trucs de parapentiste à parapentiste pour progresser sur le sujet. C'est super sympa et intéressant. Comme d'habitude, c'est même presque poétique à certains endroits.
Ok, ben merci Mathias pour cette revue du web. Vous allez retrouver, comme d'habitude, toutes ces ressources, les liens vers ces ressources sur le Scoop-It de Sécu Parapente FFVL. On en vient au plat de résistance de ce live. Donc ce soir, on va parler de live tracking. On a le plaisir pour nous guider ce soir d'avoir avec nous Cédric Larcher et Gilles Misselin. Cédric et Gilles, si vous pouvez rallumer caméra et micro. Oui, Cédric, bonjour, bonsoir.
Bonsoir Jean-Marc, bonsoir Mathias, bonsoir Gilles et puis bonsoir à tous les AS.
Je vous présente en deux mots. Gilles, tu es parapentiste, on te connaît déjà un peu dans le réseau et à la FFL, tu es moniteur fédéral depuis peu, félicitations. Mais tu es surtout le geek officiel et bénévole de la Fédé. Tu t'occupes depuis bien longtemps du réseau des balises, aussi des questions de radio. Tu es en charge de la mise en place du système d'information géographique, le SIG de la FEDE. Et la raison de ta présence ce soir avec nous, c'est la mise en place d'un petit dispositif que vous avez peut-être vu, qui s'appelle VL pour vol libre safe, sur le site de la FEDE, système qui centralise les différentes solutions de tracking utilisées par nous autres, les pilotes. Est-ce que c'est bon pour toi, Gilles, en termes de présentation?
Mais oui, tout à fait. Bonsoir à tous.
Bon, super. Cédric, tu es parapentiste repenti il y a longtemps. Tu as rangé ta voile il y a quelques années de ça. Tu as un passé professionnel dans le secours en montagne, si j'ai bien compris. Et tu es actuellement responsable du service outdoor de la société APIC, APIK. Peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être deux mots sur la société APIC, Cédric?
Alors. La société APIC, c'est une start-up, ce qu'on appelle une start-up, qui a été créée par les fondateurs d'une technologie que certains connaissent peut-être, qui s'appelle la technologie LoRa. Donc, c'est de la communication 0G. Ça sert beaucoup pour ce qu'on appelle l'IoT, c'est-à-dire l'Internet des objets. Et ces gens-là, étant passionnés d'outdoor, se sont posé la question de savoir ce qu'il était possible de faire dans le domaine de l'outdoor avec cette technologie-là. Et ils ont développé une balise notamment et un système de recherche de balises également et qui s'adresse pas seulement au parapentisme mais à tous les sports d'outdoor en général. Voilà.
Ok, super. Alors, on va revenir bien sûr sur toutes ces solutions techniques. Alors, justement, il y a une multiplicité de solutions de tracking sur téléphone, sur des appareils dédiés. Certaines sont gratuites, d'autres sont payantes. Alors, à moins d'avoir un goût pour ça, c'est quand même assez difficile de s'y retrouver. Donc, c'est un des buts de ce live ce soir, c'est de nous donner des guides pour s'y retrouver et pour faire les bons choix. Cédric, peut-être, est-ce que tu peux nous faire un rapide tour d'horizon des technologies justement qui sont derrière ces différentes solutions de tracking? Et Gilles, n'hésite pas à compléter.
Oui, tout à fait. Je crois que la principale, le principal élément qu'on a en commun, c'est la notion de positionnement et de ce qu'on appelle le GPS, Global Positioning System, qui est en fait le savoir où on est en termes de latitude, longitude, altitude. Et donc après, cette donnée-là, c'est savoir comment on va la communiquer. Alors, il faut savoir que déjà, pour avoir un point GPS, pour savoir où on est, il faut des satellites. On utilise des satellites. Il en faut quatre minimum pour pouvoir avoir un point précis. Et il y a plusieurs constellations. Donc, il y a celle des Américains, le GPS, il y a les Européens, Galiléo, il y a Baidu, il y a plusieurs. Et souvent, les balises utilisent différentes constellations. Donc, ça, c'est la première chose, c'est le point GPS. Mais après, ce point GPS, c'est savoir ce qu'on en fait. Pour communiquer ce point GPS, il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire par satellite. Mais ce n'est pas les mêmes satellites, c'est les satellites qu'on appelle de communication. Donc c'est on va dire, un cinquième satellite. Il faut quatre satellites pour un point GPS, mais il faut un autre satellite pour communiquer cette position, la communiquer au tiers, on va dire, au web, à une plateforme, voilà. Et
D'accord, là,
puis.
peut-être là, on cite quelques marques pour que les gens se repèrent bien. Ce type de solution, où c'est les satellites qui sont utilisés dans les deux sens pour communiquer, c'est type Spot, Garmin, Inric,
Inric,
c'est ça.
par exemple, tout à fait, c'est des technologies. Alors, le GPS, vous en avez dans votre téléphone portable, hein, ça marche pour faire un partage de position sur WhatsApp. Mais par contre, la communication sur votre téléphone portable, ça se fait par une puce GSM, pardon. Sur Inreach ou sur Spot, ça se fait par satellite. Et puis après, il y a d'autres systèmes, ce qu'on appelle des réseaux terrestres. C'est ce qu'utilisent des balises comme Capture, comme Lynx, comme Apic, entre autres, dessus, qui sont ce qu'on appelle des réseaux 0G, donc des réseaux à très bas débit qui permettent d'envoyer un message très très loin en consommant très peu d'énergie. Donc après, il y en a certains qui combinent différents modes de communication. Donc on peut avoir lié à son téléphone et utiliser la carte du téléphone, donc le GSM du téléphone, et avoir du LoRa, du Sigfox. On peut combiner avec les différents réseaux. Et après, donc ça c'est la première partie. Ça permet de faire du tracking éventuellement, suivant la quantité de points que l'on transmet. Et puis, ça permet donc de savoir où est le dernier point d'information de la balise s'il y a un souci. Il faut savoir que les points, il y a certains systèmes, pour donner un exemple, les forfaits de base sur Spot, si on n'appuie pas sur le bouton, ça ne déclenche pas l'information. Il faut appuyer sur le bouton pour dire j'ai un problème, je suis à tel endroit et envoyer un système GPS, un point GPS, pardon. Il y en a d'autres qui permettent d'avoir un suivi plus ou moins précis. Alors, il est évident qu'en vol libre, si on a un point toutes les 10 minutes, vous êtes capable de faire des distances assez, assez conséquentes. Et plus on a de points, alors plus la trace sera précise, mais plus ça consomme d'énergie. Donc voilà. Et après, il y a le deuxième aspect qui est l'aspect retrouvabilité. Donc, on peut retrouver.
On va y revenir peut-être hein, dans un deuxième temps, du coup, sur les usages, mais peut-être je résume à ce point-là les technos derrière. Donc, on a bien compris que toutes ces solutions, ou quasiment toutes, utilisent des satellites pour acquérir un point GPS, la position, et ensuite, elles vont utiliser différents types de réseaux pour renvoyer ce point ou ces points au reste du monde, soit des satellites, soit des réseaux GSM, etc., etc. Gilles, est-ce que tu as envie de sur la techno de compléter des choses?
Non, pas particulièrement. Je pense que vraiment Cédric a fait un tour
Ok.
d'horizon, le tour d'horizon que je connais, qui fait partie de mon monde, hein, évidemment. Monde de geek, comme tu m'as présenté. Bon, ma foi, j'assume, hein, mais voilà. Moi, je
Ok.
représente ici la FFVL et nous, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est assurément d'inviter toutes les technologies à contribuer à ce souci de retrouvabilité.
Alors voilà, on y vient. Retrouvabilité, donc on parle de quoi? Il y a un accident, enfin en tout cas, il y a un pilote dont on n'a pas de nouvelles. L'enjeu, c'est de le retrouver et dans certains cas de le retrouver vite parce qu'il est peut-être blessé. Peut-être il y a malheureusement quelques cas fâcheux, dont des cas récents, de pilotes qu'on a cherchés plusieurs jours. En général, quand on les cherche plusieurs jours, ça se termine mal. Et on a notamment l'été dernier le cas d'un pilote qu'on a cherché, je crois, presque une dizaine de jours. Alors, c'est pas tant qu'il n'avait pas de balise sur lui, parce qu'in fine, il en avait une, mais c'est que les proches n'avaient pas la bonne info sur la balise qu'il utilisait, donc on n'a pas pu le retrouver rapidement à cause de ça. Sur ces enjeux de retrouvabilité, toutes les solutions ne sont pas équivalentes. Cédric, là, tu veux développer sur cette histoire de retrouvabilité?
Tout à fait. Nous, on travaille beaucoup avec les services de secours et c'est intéressant de voir quels sont leur schéma de recherche, en fait. La première chose, effectivement, c'est savoir la personne qui est disparue, parce qu'une personne, au départ, est portée disparue, qu'est-ce qu'elle a comme système de recherchabilité? Quand on appuie sur une balise ou quand une balise se déclenche, hein, parce qu'il y a des systèmes de déclenchement automatique aussi, hein, pour des pertes d'altitude, pour des pertes de verticalité, pour l'absence de mouvement, etc. Il y a plusieurs moyens en fait de prévenir les secours. Les secours refusent les déclenchements automatiques auprès de leur service, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de balises dans le monde de l'outdoor en tous les cas. Il y en a quelques-unes qui ont été mises en place pour la moto, par exemple, mais sinon, dans le monde de l'outdoor, ils refusent d'avoir des envois directs d'alerte parce que il y a beaucoup de fausses alertes, il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Donc, ils veulent un filtre. Ce filtre-là, il peut être de de forme, on va dire. Soit c'est un call center, c'est ce que fait Spot par exemple. Donc il y a un call center à Houston. Et si on appuie sur le bouton ou s'il y a une alerte, ça prévient Houston et Houston va chercher quel est le service de secours le plus proche pour les prévenir en disant, bah voilà, on a une balise qui est déclenchée à tel endroit et c'est vous qui êtes à proximité et on n'a pas d'informations particulières, mais il y a quelqu'un qui est en danger visiblement. Ça, c'est le premier filtre. Le deuxième filtre qui est possible, c'est ce que nous, on utilise, c'est le filtre des proches. Alors, quand on dit les proches, ça peut être les conjoints, conjointes, enfants, etc. Mais ça peut être aussi un président de club, ça peut être aussi dans un cadre professionnel un responsable et donc qui va recevoir cette alerte et avec un petit message évidemment. Hein, il a été mis en veilleur en amont et avec ce petit message, il doit prendre une décision. Donc, si l'accident a lieu bah, juste à côté et qu'il peut intervenir directement, peut-être qu'il peut y aller directement, aller voir ce qui se passe. Et puis, si c'est probabilité qu'il y ait un accident grave ou que c'est loin, ou enfin voilà, c'est toute une gestion par rapport à ça, bah, appeler les services de secours correspondants pour qu'ils interviennent. C'est les deux parties. Et après, donc, pour venir à ce que tu disais, bah, toutes les balises ne se valent pas là-dessus. C'est que, comme on l'a vu, il y a différents moyens de communication. Bah, il y a des endroits où il y a des trous dans la raquette. Quel que soit le réseau, que ce soit du réseau terrestre ou satellite ou autre, bah, il y a des endroits où ça ne passe pas. Alors sur le satellite, évidemment, ça passe beaucoup mieux que sur les réseaux terrestres, mais encore faut-il avoir le bon abonnement sur la bonne zone. Et puis, il y a quand même des endroits où ça ne passe pas, les réseaux. Donc, on a des informations parfois parcellaires. Et donc, on a un dernier point, par exemple, bah, 5 minutes avant le crash, et puis après 5 minutes, on ne sait pas où il est allé. Et malheureusement, bah, ce delta de précision emmène parfois des recherches assez conséquentes parce que bah, une voile qui est tombée, alors on parle d'une voile parce qu'ici on est sur le parapente, mais on peut être aussi sur d'autres activités. Quelqu'un qui disparaît dans une forêt, dans des fougères et autres, il faut savoir qu'une battue, ça demande énormément de temps, énormément de moyens humains et que suivant la complexité des lieux, bah, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. C'est un petit peu ce qui s'est passé sur le cas que tu évoquais, là, sur le Kera en l'occurrence, où bah, on avait un point haut, mais après, la balise au sol n'avait plus le réseau. Et comme elle n'avait plus le réseau et qu'elle n'était pas recherchable en elle-même, bah, ça posait un souci. Voilà.
Donc, il y a des balises qui sont recherchables en elles-mêmes. Est-ce que tu peux développer ça, ce type de solution?
Tout à fait. Alors, il y a des balises et puis il y a des éléments. Tu as cité au début, et je collabore aussi avec eux, Réco, qui sont des réflecteurs qui se mettent donc sur les vêtements, sur les casques, etc., qui sont recherchables maintenant avec un hélicoptère, avec une espèce de grosse boule qui va en dessous, et on fait des bandes de recherche depuis l'hélico, des bandes de recherche de plus de 100 mètres de large, donc ça va relativement vite. Et puis, donc, en ce qui concerne à pic, les balises sont recherchables par les services de secours. Alors en France, pour le moment, les services de secours sont équipés d'un petit appareil qu'on appelle un finder. C'est un tout petit appareil grand comme ça qui se branche sur un téléphone portable ou sur une tablette. Et ça détecte à 12 km à la ronde à peu près. Donc 12 km à droite, 12 km à gauche, suivant le relief, hein, bien évidemment. Hein, ça passe pas ou très peu derrière les crêtes. Mais ça permet de scanner toute une vallée très rapidement avec l'hélicoptère. Vitesse maximum, on peut remonter. Donc, si on a un dernier point, eh ben, on peut communiquer avec cet appareil-là, on peut communiquer directement avec la balise, ce que ne font pas effectivement les autres systèmes de balises. Vous avez après des balises type ce qu'on appelle les PLB, par exemple, qui peuvent être retrouvables, mais avec bah, de la triangulation, ce qu'on appelle le Agonio. C'est un petit peu plus complexe, on va dire. Ça met un petit peu plus de temps.
D'accord, par des signaux radio du coup. Gilles, donc l'AFLVL se retrouve avec un enjeu de retrouvabilité. C'est pas nouveau. Il y a déjà eu par le passé d'autres accidents où on a cherché des pilotes depuis des jours. Par contre, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on a de plus en plus de pilotes qui sont équipés de diverses solutions de tracking, que ce soit satellite, GSM ou autre. D'où l'idée de centraliser sur l'intranet fédérale pour les licenciés, de leur demander quelle solution de tracking ils utilisent. Tu nous racontes du coup ce système VLSF qui vient d'être mis en place, je crois que ça fait quoi? 2 mois qu'il est opérationnel?
Oui, tout à fait, oui. Ça fait 3 mois qu'il a été imaginé, 2 mois qu'il est opérationnel. En fait, ça a commencé par l'apparition d'un onglet tracker dans le profil licencié FFVL, dans lequel, avec vous, Mathias, Jean-Marc et les AS, on s'est dit, bon, ben, on va répertorier, on va demander aux licenciés d'indiquer quelle est la solution, quelles sont les solutions. Parce que là, maintenant, on peut décrire ces solutions en format texte de retrouvabilité, entre guillemets, hein, en tout cas pour justement pallier au problème évoqué par Cédric et par toi, Jean-Marc, de ce pilote qui avait le tracker, mais dont on ignorait quel était le type. Voilà. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est dit, bon, ben, maintenant qu'on a l'onglet tracker, on va essayer également de nous placer, quand je dis nous, c'est la FEDE, dans un rôle de fédérateur et d'inviter les grands acteurs et les petits aussi à les acteurs justement de solutions, d'instruments de vol, eh bien, en fait, de nous communiquer. Moyennant confidentialité et évidemment, on va dire un contrat, hein, leur donner toutes les minutes les données de position acquises par leurs instruments de vol toutes les minutes. Ainsi, en fait, en l'espace d'un mois, on a eu trois grands acteurs, Flightmaster, SeaRide et Sport Track Live, qui ont immédiatement répondu présent à cet enjeu. Qui en fait caché derrière cet enjeu, c'est essayer de sauver une vie. Une fois qu'on aura sauvé une vie, eh bien, et même améliorer, on va dire, les conditions d'un blessé grâce au fait qu'on l'ait retrouvé, eh bien, on aura atteint déjà un bel objectif. Voilà comment ça s'est fait. Et puis on s'est mis au travail. Et avec justement ces acteurs, on a construit, quand je dis on, c'est la FEVL, mais avec leur soutien, une API. Et qui permet maintenant à différentes solutions de tracking de nous poster, nous, FFVL, toutes les minutes la position d'un licencié. Et quand je dis d'un licencié, chaque licencié peut adhérer à ce programme. C'est lui qui adhère, c'est lui qui offre son consentement. C'est à lui de faire la démarche, d'aller évidemment. Contribuer à sa retrouvabilité.
Alors, très pratiquement, moi, alors, imagine, j'utilise un tracking de C-Rail, je fais comment, je vais où, je le déclare où et comment ça se passe?
Parfait. Voilà, c'est très concret. Je file direct dans mon intranet, onglet tracker, et là, pour C-Ride, je copie une clé, ma clé de tracking où je photographie le QR code qui se trouve sur cette page et je vais ensuite dans l'espace client ou l'espace utilisateur de C-Ride et je copie cette clé et les choses sont assez simples. À partir du moment où on a copié, renseigné sa clé de tracking dans l'espace utilisateur de la solution de tracking, eh bien, les données remontent. Ensuite, je retourne au niveau de la FEVL et je peux déterminer comment ces données vont être exploitées. Est-ce qu'en fait elles vont être restées confidentielles ou est-ce qu'en fait la FEVL est autorisée à distribuer ces données, notamment à Spotter, à l'application Spotter, afin qu'en fait on puisse visualiser et des tiers puissent visualiser la position du pilote. Mais là, on s'éloigne de la question de sécurité et de retrouvabilité. Toujours est-il qu'en fait, derrière cette question de retrouvabilité, on a également, la FEDE pense aussi à permettre à des groupes de pratiquants, qu'ils soient en club, en école, en séjour, de pouvoir partager entre eux leur position afin, à des fins logistiques et de praticité.
À la fois ouais, et récréatif. Donc, de partager leur position, même s'ils n'utilisent pas tous la même solution de tracking.
Exactement,
C'est
tout à fait.
l'intérêt du système. Et alors, imaginons une dernière chose. J'utilise une solution de tracking qui n'est pas encore partenaire de l'AFVL. Qu'est-ce que je fais dans cet onglet
Alors, à
tracking?
minima, on décrit la solution de tracking qu'on a, éventuellement l'ID, son ID client ou son ID de tracker, à minima. Et ensuite, nous, nous sommes à l'écoute dans l'équipe de la Commission nationale des sites de toutes les solutions de tracking et on prend immédiatement contact avec le développeur ou la société qui développe la solution et on essaie de l'inciter à être compatible avec la solution de collecte d'informations. Si, on va dire, pour certains pilotes, la solution de tracking dont ils disposent, Garmin par exemple, des grands acteurs, il est probable que Garmin n'en ait rien à faire de la FVL et des parapentistes. À ce moment-là, on propose aussi, on va proposer, et ça, c'est un développeur qui, de manière spontanée, nous a développé, nous, FED, une application qui s'appelle VLSafe aussi, et une application qui tourne aussi bien sur Android que sur iOS, très très simple, et qui palliera à, on va dire, ces cas de figure où en fait les solutions de tracking ne permettent pas de remonter la position de pilote. Je pense aux gros acteurs comme Garmin, hein, pour ne pas les citer.
Ok, je crois que Mathias, on a plein de questions
Eh ouais, on a plein de
à
questions,
remonter.
ça.
Vas-y.
Ça fait. Alors, il y a des questions que je vais essayer de regrouper, hein, parce que, il y a des questions qui concernent, par exemple, si jamais on a impacté et qu'on est inconscient, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte d'un peu automatiser l'alerte qui est donnée comme ça? Est-ce que ça, c'est envisagé? Est-ce que, voilà, je ne sais pas si tu veux
Alors,
répondre d'abord.
ouais, moi, je vais répondre. Le truc, c'est que la Fédé ne peut pas tout. Et c'est bien pour ça qu'en fait, on active un partenariat avec des fournisseurs de solutions de tracking. Et on compte bien sur la créativité des gens comme Flightmaster, C-Ride et d'autres pour nous proposer en fait des solutions qui permettent effectivement cette semi-automatisation. On a déjà prévu la fonction SOS. Donc ça, c'est le bouton classiquement qu'on peut appuyer sur une appli. Mais effectivement, si on est inconscient, on peut éventuellement imaginer, on va dire, un déclenchement automatique. On a également, pour vous informer, un fournisseur de solutions qui est en train d'intégrer VLSafe et qui nous a dit, bah, moi, j'ai dans mon appli la possibilité de dé détecter la vitesse, le taux de chute négatif. Hein, et à ce moment-là, détecter que je suis en train de chuter massivement. Et là, à ce moment-là, on pourrait aussi automatiser ou en tout cas détecter un incident. Voilà. Derrière, ça pose évidemment des questions, de multiples questions. Qui on va alerter? Qui va gérer? Et c'est pour ça qu'en fait, on compte quand même sur les fournisseurs de solutions pour assurer ce support. Et la FVL ne peut pas tout, on ne peut pas avoir un call center avec jour-nuit, parce que je parle de la nuit, parce qu'évidemment, à l'autre bout de la planète, VLC fonctionne aussi, qui pourrait répondre et gérer justement ces alertes et ces alarmes et notifier les personnes concernées. Donc là, Alors
on se
peut-être.
vraiment sur
Alors
les fournisseurs.
justement,
Oui.
j'avais une question là-dessus. Bah, voilà, VLSafe et donc le dispositif monté par la FFL, il est visible par qui? Voilà, c'est un peu le qui. C'est
Alors,
qui a accès à ces informations de Geoloc?
qui a accès à minima, c'est-à-dire si le pilote ne coche rien, on l'informe, mais qu'il souscrit quand même à cette retrouvabilité, sa retrouvabilité. Eh bien, c'est les moniteurs et les cadres fédéraux qui ont accès à sa dernière position GPS.
Est-ce que, je pose la question supplémentaire, est-ce qu'il serait envisagé, par exemple, que les AS de la structure du pilote, par exemple, puissent être informés
si jamais, voilà, un peu
Oui,
de
je pense.
manière automatique, tu vois.
Ouais. Alors, automatique, en fait, l'information n'est jamais automatique, hein, pour l'instant. On collecte la dernière position et c'est lorsqu'on s'inquiète qu'en fait, on va ch chercher la dernière position et on déclenche les secours. On commence à déclencher les secours et on utilise le système la dernière position pour orienter les secours. Évidemment, avec le bouton SOS, il va falloir qu'on alerte, hein, et à ce moment-là, effectivement, on peut penser, imaginer que le pilote puisse souscrire. Alors, les AS, oui, il peut aussi, on peut imaginer la possibilité pour le pilote de renseigner une série d'amis. Avec les numéros de licence des amis qui seraient autorisés à recevoir des notifications concernant sa retrouvabilité.
Alors, j'imagine que ces problèmes de qui a accès aux données, tout ça est très, très réglementé. Cédric, j'imagine que c'est évidemment des questions auxquelles vous frottez aussi chez API. Comment ça se passe en termes de privacy sur les données de vos clients qui utilisent votre hacker?
Non, tout d'abord, je voudrais féliciter Gilles pour tout le travail qui a été effectué là-dessus, parce que c'est vraiment un des premiers points, comme je l'ai évoqué au niveau des services de secours, c'est savoir bah, si, est-ce qu'il y a de l'information et où est-ce qu'on va la chercher? Et pour travailler avec eux régulièrement, c'est un vrai sujet. Ensuite, effectivement, par rapport au problème de vie privée, c'est très compliqué. Il y a des réglementations en Europe, notamment, beaucoup plus que dans d'autres pays, qui obligent à être très très prudent sur ce qu'on demande aux gens. Il faut savoir que ce que vous donnez à Google ou à Facebook peut avoir énormément d'impact et on peut savoir énormément de choses sur vous, mais quand il s'agit d'une belle liste de sécurité, c'est beaucoup plus complexe pour pouvoir demander des informations précises. Donc voilà, on est obligé de demander des autorisations à la CNIL et tous les fichiers doivent être confidentiels, protégés, etc. Nous, on a mis en place un système qui s'appelle DigiOps qui est consultable automatiquement par les services de secours avec ce qu'on appelle une requête automatique. Donc, ils peuvent voir qui a une balise APIC. Ils peuvent le voir directement, mais après, s'ils veulent chercher des datas de cette personne, c'est une requête automatique, mais le porteur de la balise sera informé que bah, tel, alors pas la personne nominativement, mais tel PGHM, par exemple, a recherché la balise de Monsieur Jean-Marc Galland tel jour à telle heure. Et donc, s'il n'y avait pas de raison, il y a moyen de se poser des questions. Normalement, ils s'amusent pas à jouer à ça, bien évidemment. C'est une obligation en fait légale pour couvrir un petit peu la vie privée des uns et des autres. Par rapport à ce qui a été évoqué là, très rapidement sur les alertes automatiques, il faut savoir que ça existe depuis longtemps, hein. Il y a des systèmes, ce qu'on appelle les DATI et les PTI dessus, qui peuvent avoir donc des pertes de verticalité, des chutes, des impacts, des mouvements, absence de mouvement, l'homme mort, etc. Et il faut savoir que c'est très 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 compliqué à mettre en œuvre, notamment sur des balises outdoor, parce que votre balise outdoor, il est peu probable que vous l'utilisiez simplement que pour le parapente. Et puis, même sur le parapente, entre ce que font certains pilotes, alors moi je suis un petit peu déconnecté de la réalité maintenant, mais ce que je vois de certains pilotes qui font des décrochages, qui rouvrent, qui font des virevolts dans tous les sens, etc. Et un pilote, on va dire, plus basique, bah, ce qui peut être considéré comme un accident pour l'un sera simplement une figure un peu aérienne pour un autre. Si on part sur le speed riding ou des choses comme ça, ou le kitesurf, voilà, c'est pareil, ça peut être compliqué. Et on va prendre un exemple très simple, hein, la perte de verticalité et le choc. Ça a été mis, par exemple, sur les personnes âgées. Et les personnes âgées mettaient leurs balises dans la veste. Et quand elles arrivaient chez elles, elles prenaient la veste et elles jetaient la veste sur le lit. Il y a une chute. il y a une absence de mouvement et donc il y a une alerte. Et quand le problème qui se pose, on a ça avec les forestiers, on a ça avec plein de monde. Hein, et ben quand on a des alertes, des fausses alertes une fois, deux fois, trois fois, 50 fois, et ben on finit par plus utiliser ou du moins ne plus prendre en compte les alertes. Et donc, on a travaillé là-dessus et c'est complexe. Honnêtement, jusqu'à maintenant, tous les systèmes qu'on a, j'en ai encore testé un là, il y a 2 jours, tous les systèmes qu'on a, eh ben, doivent être vraiment très catégorisés suivant le niveau de la personne, suivant l'activité, suivant. Voilà, c'est compliqué. Et pour l'instant, on n'arrive pas à vraiment répondre à 100% aux besoins là-dessus.
Ok, Mathias, je crois que tu as encore une question rapide à faire remonter.
Oui, alors c'est une question rapide qui va parler d'autres solutions de tracking. On a dans le YouTube des gens qui évoquent la question du FANET et du FLARM. Est-ce que ça vous inspire, cette chose-là?
Ça, c'est très très utilisé pour faire de l'anti-collision
Ouais.
par les avions, les planeurs, mais pas que. Qui a envie de développer? Gilles, peut-être là-dessus, tu connaissais
Alors
un peu ce
oui,
système?
ce sont des systèmes qui existent dans d'autres mondes aéronautiques que les nôtres. On en est bien conscient, principalement, comme tu le dis, dédié à l'anticollision. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'appuyer déjà sur des solutions qui existent et qui collectent déjà les coordonnées de nos pratiquants. Et pour faire en sorte que le plus rapidement possible, dans les délais, nous puissions rendre ce service aux pratiquants. Après, l'histoire de VLCF et de la FFVL va se raccorder à d'autres histoires. Et on est d'ores et déjà en train de travailler avec plusieurs organisations pour voir comment collaborer et comment cette retrouvabilité peut s'étendre au travers de différentes pratiques aéronautiques. Ce qu'on essaie, c'est de délivrer un service le plus rapidement possible, tant pis, quitte à probablement faire des impasses sur des systèmes existants qui sont assez complexes et émanent d'autres mondes. Mais grâce à cette expérience, qui est plus qu'une expérience, eh bien, mine de rien, on est mis en contact, on nous contacte pour justement coordonner et relier ces différents systèmes. Et tout le monde s'intéresse à ces systèmes. Et ça, c'est génial, puisqu'en fait, c'est une communauté qui se mobilise pour justement cette question de retrouvabilité. Et on va collaborer avec ces gens et on le fait déjà. Voilà.
Alors, si j'ai bien compris, le point d'entrée, c'est la retrouvabilité, mais néanmoins, on l'a compris, il y a des tas d'autres usages autour.
Ouais.
Tu l'as évoqué, des usages plus communautaires, partage de traces, des usages plus récréatifs. On a aussi évoqué l'anti-collision. Donc voilà, il y a plein d'usages à ces solutions de tracking. Est-ce qu'il y a un outil, une balise qui fait tout très bien, qui fait très bien de l'anti-collision, très bien de la retrouvabilité et très bien du partage de traces récréatif? Est-ce que le moteur à cinq pattes existe?
Alors, pour ma part, l'anticollision, on ne le traite pas pour l'instant, hein. En tout cas, nous, on n'y a pas travaillé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de collecter toutes les minutes la position d'un pilote. Ça peut être un sujet. Je pense qu'en Suisse, apparemment, de plus en plus de parapentistes sont équipés de dispositifs justement permettant cette anticollision. Mais pour moi, c'est effectivement, c'est notre sujet de sécurité, mais ce n'est pas le sujet de la retrouvabilité. Hein. Ça,
Clairement.
c'est clair. Et l'anticollision ne fonctionne pas forcément avec le GPS et la position GPS. Hein.
Enfin,
Si,
plus avec des
il faut le
signaux
souligner.
de radio pour le FLARM. De
Ouais.
Cédric, là-dessus, le mouton à cinq pattes qui fait tout, il existe dans le monde des balises?
Je pense qu'on y viendra sans doute à un moment donné. Pour l'instant, il y a des problèmes qui se posent assez simples, hein. C'est que d'une part, si on prend beaucoup de points GPS, on utilise beaucoup de batteries. Donc, si on utilise beaucoup de batteries, bah, c'est des batteries qu'on n'a plus après pour émettre un signal de secours longtemps. Il faut savoir que même avec des systèmes de faible consommation, bah, il y a un moment donné, ça finit par s'arrêter. Donc, il faut retrouver les gens rapidement.
La collision, c'est comme le dit Gilles, c'est encore un autre système, hein, c'est pas simplement le point GPS. Si on prend un point GPS toutes les 30 secondes, ou toutes les minutes, la collision, elle est pas forcément pertinente, sur certains sites de vol, on va dire, vu le nombre de personnes qui évoluent dessus. Et puis après, enfin, pour moi, il faut vraiment faire la différence entre le tracking d'un côté. Si on cherche du tracking, il faut beaucoup de points GPS. Et voilà, ça permet d'avoir une belle trace, ça permet d'avoir un bon suivi. Et après, la communication et la retrouvabilité, c'est un autre aspect. La communication, comme on l'a vu, c'est avec quoi on va passer l'information. On peut avoir une très belle trace enregistrée sur notre téléphone portable et qui ne soit pas communiquée à aucun moment. Vous aurez un très beau suivi sur le téléphone portable. À la fin, on pourra le télécharger sur l'ordinateur, mais il ne sera pas communiqué. Donc, c'est vraiment trois aspects différents. Les points qu'on prend, comment on les communique, et ensuite, comment on retrouve la balise éventuellement si les points ne sont pas suffisamment précis.
Ok, je crois qu'on a une toute dernière question qu'on voudrait faire remonter, Mathias, avant de conclure
Oui,
l'interview.
alors justement, bah, imaginons qu'il y a un copain pilote qui est perdu, on ne sait pas où il est, etc. Qui on prévient? C'est quoi la procédure dans ce cas-là?
Bon, la procédure, elle est assez simple. On prévient les copains. On essaie de. Alors, si c'est un non-parapentiste, il va essayer de prévenir un copain. Dès qu'il s'agit d'un parapentiste, aujourd'hui. Il faut prévenir un moniteur ou un cadre fédéral. Un moniteur, tout le monde en connaît. Enfin, ça, voilà. Donc, c'est le point d'entrée, c'est le moniteur, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a été paresseux. Le moniteur a accès à toute une série d'informations concernant les pilotes et on s'est appuyé là-dessus. Après, peut-être qu'il serait judicieux d'élargir. Cela, par exemple, au club, aux administrateurs d'un club, hein, président, trésorier. Bref, ça, c'est des questions, on va dire, plus administratives, techniques. C'est possible, si c'est ça la question. Voilà.
Ok, super, merci. Peut-être on se quitte pas sans une dernière question, évidemment. Cédric, quand est-ce que APIC va devenir partenaire du système VLCF?
Je sais qu'il y a eu des discussions déjà entre la partie technique et Gilles, c'est en cours. Je voudrais juste dire quelque chose d'important par rapport à la question précédente, c'est que n'hésitez pas, mais vraiment n'hésitez pas, hein, pour travailler avec les secours régulièrement, n'hésitez pas à déclencher un secours. Les secouristes, le PGHM, les CRS de montagne, préfèrent que vous déclenchiez un secours pour rien, plutôt que vous déclenchiez un secours trop tard. Il faut savoir qu'à partir d'une part, il faut prévenir très rapidement que c'est un accident de parapente parce que ça change la donne. Une personne qui ne rentre pas en VTT ou à pied, on estime qu'elle peut peut-être passer la nuit, ce n'est pas forcément grave, elle peut être juste égarée. Hein, quelqu'un qui ne rentre pas en parapente, il y a beaucoup plus de chances que ça soit grave, donc il y a plus de probabilité d'envoyer un hélico. Et l'hélico, bah, la nuit, ça complique les choses. Donc n'hésitez pas, les CRS, vous pouvez en parler, allez les voir. Le PGHM, la même chose, n'hésitez pas à déclencher un secours, quoi. Et après, bah, je pense que pour en revenir à ce que tu disais, bah, la balise APIC, elle focalise sur la retrouvabilité au sens communication avec les services de secours. On a beaucoup travaillé avec les services de secours pour ça. On était présents sur l'ICAR, qui est, alors, c'est pas la Coupe ICAR, hein, c'est la Commission internationale de secours alpin qui avait lieu donc dans les Dolomites l'automne dernier. On travaille avec eux justement pour répondre à ces besoins avec un point de vue des secouristes dessus et après donc avec bah, la FFVL, la FFCAM, les différents syndicats professionnels, etc.
Ok, super. Merci beaucoup, Cédric. Gilles, le mot de la fin?
Oui, alors je voudrais dire qu'après 2 mois, que dis-je, presque pas à peine 2 mois, on a 136 utilisateurs qui ont accepté de poster leurs coordonnées géographiques. Et on accueille toutes les remarques, les questions. Là, j'en vois fusées sur le chat. Eh bien, continue à nous les poser, mais cette fois-ci par email. tracking@fvl.fr et on tâchera de vous répondre.
Super. Peut-être 136, ça vous paraît pas beaucoup, mais je peux vous dire que pour un truc lancé hors saison sur l'intranet de fédéral. C'est déjà une belle réussite et donc ça veut dire qu'il y avait réellement un besoin. Merci beaucoup à tous les deux et bravo chacun de votre côté pour ce que vous faites. Super.
Merci beaucoup, hein. À nouveau. Bien
On
sûr, on n'a pas
passe.
épuisé le sujet,
Non,
malheureusement.
loin de là,
On
comme
passe
souvent.
donc oui à l'animateur du CQ du mois. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Grégory L de Planès Vol Libre. Salut Greg, je ne sais pas si tu as rallumé ta caméra.
Voilà.
Oh, voilà, génial, super. Donc ben, je te rappelle le jeu, hein, c'est de te soumettre un flot de questions standards, toujours les mêmes, tous les animateurs sécurité du mois. Et ben, je laisse Jean-Marc commencer avec la
Je
première question.
commence par la première question, la question très difficile, mais où est ton club, Greg? Ah,
Ah.
on t'entend très mal, Greg, on t'entend très mal. Je ne sais pas si tu as un moyen de.
On a l'impression que tu es un stormtrooper
Donc le
Ah,
club
c'est
Planès,
mieux.
voilà. Le club Planès Vol Libre, c'est un club école. On est situé au nord de la région Grand Est, dans le département de la Moselle. Voilà. Notre site local, c'est Volmerange, et puis on bouge un petit peu sur les autres départements, l'Ardenne, l'Alsace et également les Vosges.
Combien il y a de membres dans ton club?
Alors, cette année, à l'heure actuelle, on compte 86 adhérents. On a également deux moniteurs, on a des accompagnateurs et puis donc maintenant, on a deux AS aussi au sein du club.
Ok, quelles sont les pratiques des membres de ton club?
Chez nous, on a vraiment une grande diversité dans les pratiques. Il y a des piou-piou qui sont en sortie d'école, des pilotes en progression. Il y a du vol de site, il y a des crosseux, il y a quelques pratiquants d'accro. On a aussi pas mal de bons pilotes qui pratiquent des manches de compétition. Et cette année, avec l'aide de nos plus anciens et nos plus expérimentés, on a pu former une nouvelle vague de treuilleurs, puisqu'avec le club et l'appui du CDVL, il y a de grandes ambitions pour relancer notre activité treuil.
Et toi, tu voles depuis combien de temps et avec quelle aile? Voilà.
Alors moi, je me considère encore comme un jeune pilote en progression puisque j'ai débuté le parapente en 2020. Je pense que je fais partie de la grosse vague qui est arrivée post-Covid. Et voilà, donc je vole avec une Skywalk et une Massal A3.
Un truc que tu adores en parapente?
Bah, le truc le plus fou que j'aime en parapente, bien sûr, c'est le fait de voler, d'être en l'air, d'être assis confortablement les pieds dans le vide. Et puis j'aime beaucoup tout ce qui touche à la proprioception. Donc les mouvements d'accélération, de ralentissement, les mouvements de rappel pendulaire, enfin toute cette évolution dans le 3D, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie.
Ouais, un truc que tu détestes maintenant en parapente.
Eh ben, c'est un peu lié finalement, ce que je déteste, c'est un peu lié à mon manque, on va dire, un petit peu d'expérience. C'est-à-dire que c'est quand il y a beaucoup trop de monde. On est sur un site ici. Qui est magnifique quand on a des belles restites au printemps, l'été et à l'automne. Mais forcément, c'est un site qui est très très vite chargé. Et donc voilà, quand il y a un peu de monde, il faut faire attention. Mais généralement, il y a un bon esprit de bienveillance. Beaucoup de monde se connaît et on arrive quand même à faire ça de manière correcte. Mais en tout cas, moi, voilà, le monde sur les restites et le monde quand on enroule, c'est encore un petit peu ce qui blesse chez moi.
Qu'est-ce qui t'a amené à devenir AS?
Alors, ce qui m'a amené à devenir AS, parce qu'en fait, quand j'ai débuté, je me suis vraiment passionné et intéressé à tout l'aspect théorique et avec tous les apprentissages qui en découlaient. Et j'ai compris qu'effectivement, la sécurité était complètement intrinsèque à notre activité. Et j'étais effectivement étonné de voir que la sécurité n'était pas, en tout cas, portée avec autant d'importance. Que ce qu'une activité aérienne pourrait nécessiter. On connaît effectivement les autres activités aériennes, on sait comment la sécurité et les protocoles sont mis en place. Et donc, le fait de devenir AS, je me suis dit, bah, tiens, il y a du mouvement qui peut se faire, je n'ai pas encore les grandes connaissances, je vais pouvoir apprendre et puis pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice éventuellement.
Alors, une action que tu as testée en tant qu'AS et dont tu es content.
Alors, le mois dernier, on a eu notre réunion hebdomadaire, non, pardon, notre réunion mensuelle, et j'étais content de pouvoir de faire une présentation sur tout ce qui touchait à la cohérence cardiaque et à la visualisation, puisque ce sont des protocoles et des activités qui sont essentielles à notre bien-être, à la gestion du mental. Et en plus, le petit plus, c'est que c'était transposable aussi bien dans les activités de parapente que dans les activités de tous les jours.
Absolument. Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton rôle d'animateur sécu?
Alors finalement, la difficulté, c'est peut-être moi qui vais me la mettre, je vais dire que le manque de connaissances, le manque de pratique, ça n'aide pas dans ma posture et dans ma légitimité. Mais j'apprécie en fait d'avoir toujours les oreilles tendues, les yeux grands ouverts et de pouvoir apprendre et à construire mes propres réflexions. Donc voilà, moi, les difficultés, ça va être dans la construction de mon rôle, mais je suis bien entouré au niveau de la communauté et également avec Michael, l'autre AS du club.
Ok, un projet d'action qui te tient à cœur maintenant,
Alors, on
j'aimerais
a
m'amener.
planté une petite graine en collaboration. Ça reste pour l'instant juste une ébauche de discussion, mais avec un de notre moniteur, donc le directeur technique, on est en train de voir peut-être qu'on pourrait organiser une ou deux sessions sur le GeForce. Donc voilà, organiser ça peut-être pour pouvoir aller se confronter aux sensations de ce simulateur. Et dans un autre temps également, avec donc le deuxième AS, Michael, c'est de pouvoir mettre en place des exercices pratico-pratiques directement liés à des incidents ou des accidents de notre activité.
Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter pour terminer ce portrait interview?
Ben, en tout cas, moi, ce que je trouve déjà très important à mentionner, c'est la remise en question. C'est vraiment quelque chose qui est important et qui est pour tous les pilotes, les bons, les moins bons, ceux qui doutent, ceux qui sont sûrs. Et voilà, des fois, moi, avec mon jeune niveau, j'observe qu'il y a des situations où on n'est pas souvent en train de remettre en considération sa pratique. Voilà, on est toujours là à remettre en cause le renoncement, questionner ses actions, enfin. Donc pour moi, voilà, l'essentiel, si j'ai quelque chose à ajouter, c'est vraiment que la sécurité est un élément excessivement important. La communauté des AS est en train de construire, on va dire, un maillage important et tout ça va se mettre en place. Mais il faut arrêter de croire que la sécurité, ça fait peur.
Merci Greg, c'est super cool. Merci pour cette dernière phrase aussi. On va passer à la dernière séquence de ce live. Il s'agit du retour d'expérience du mois et ce mois-ci, c'est de la fiction.
Oui, c'est un retour d'expérience, d'une expérience qui ne s'est pas encore produite, d'un accident qui ne s'est pas produit, mais qui peut-être ne va pas tarder. Alors, peut-être, il faut contextualiser sur le Discord, donc sorte de forum des animateurs sécu, il y a une rubrique qui s'appelle Culture toxique, sur laquelle des animateurs sécu postent de temps en temps quelque chose qu'ils ont trouvé dans la communauté du vol libre qui leur paraît plutôt toxique en termes de sécu, et puis ça discute sur pourquoi c'est toxique, est-ce que c'est vraiment très toxique, etc., etc. Donc là, ce que j'en ai envie de vous rapporter ce soir, c'est un AS qui, il y a quelques jours de ça, a posté des vidéos d'une structure professionnelle qui fait des biplaces dans la région d'Annecy, on ne va pas la citer évidemment, et qui poste assez régulièrement des vidéos de voile contact en biplace commercial. Donc, c'est deux biplaces avec des passagers, vol commercial. Alors, voile contact, c'est pas juste des stabilos qui se touchent, hein. C'est vraiment, on marche, on patauge même avec son passager sur le bit du collègue qui est en bas. Alors, est-ce que c'est une bonne idée en termes de sécu? Est-ce que ça donne une bonne image de l'activité? Est-ce qu'on est dans l'exemplarité du moniteur? Eh ben, on vous laisse vous faire votre propre opinion là-dessus. En tout cas, ça a été abondamment discuté sur le fil Culture Toxique du réseau des AS.
Eh oui, donc le live est terminé pour aujourd'hui. On va se retrouver le 24 avril. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des idées de thèmes, d'invités, eh ben, vous pouvez nous écrire sur live des AS tout attaché @fvvl.fr. Salut Jean-Marc.
Salut Mathias, à bientôt.